et s'est exilé dans le liquage. J'ai été l'amour fou de maman. Je dis j'ai été et pas je suis, car un jour j'ai cessé d'être un petit enfant.
C'est la seule tout compris qu'elle était toute seule, quoi, que j'étais plus là. J'étais plus son petit François.
Alors, je vais dire, c'est le début de Mignonne, allons voir si la rose. J'étais destiné à devenir maçon, comme papa, ou employé des postes, ce qui aurait fait tellement plaisir à maman. J'aurais été l'un ou l'autre sans regret. J'aurais, je le sais, fait joyeusement mon boulot. J'aurais été un maçon habile et consciencieux ou un postier qui aurait grimpé les échelons. J'ai d'ailleurs été l'un et l'autre, successivement. Si je ne m'y suis pas tenu, c'est que mes réactions devant les hasards de la vie, en une époque tout spécialement épouvantable, m'ont projeté hors de l'orbite assignée. Donc là, ce qui va bouleverser votre destin, c'est ce qui a bouleversé le destin de millions d'hommes, c'est la guerre
39-45. Oui, bien sûr, il y a eu le STO. Le décret, en février 43, était à peine passé que se trouvait dans un wagon à bestiaux en route pour Berlin. Exactement le jour de mes 20 ans, je me suis retrouvé à la gare de l'Est, gardé par un cordon de flic, avec un tordeau de gars de mon âge, pour où on ne savait pas. Est-ce qu'on était des otages? Est-ce qu'on était... On ne savait pas. Et écoutez, c'est un peu comme les Juifs que j'ai vus rafler un jour, en 1942. J'ai vu la grande rafle qui avait eu lieu sur le Faubourg Saint-Antoine. Les gars partaient, on les faisait descendre de chez eux, ils étaient sur le trottoir, ils attendaient les autobus. Ils étaient tristes, leur famille les voyait partir, mais ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, ils se laissaient embarquer comme des cons, comme nous. Ils ne savaient pas qu'ils allaient vers la mort. Nous, ça ne s'est pas terminé aussi dramatiquement. Mais on était aussi cons. Qu'est-ce qu'on est moutonnier, bon Dieu, qu'est-ce que... Je me suis trouvé dans un wagon à bestiaux qui a mis 3 jours pour atteindre Berlin, parce que c'était la guerre, hein. Il y avait des convois, il y avait mes yeux sont ouverts bien grands, parce que je voyais tout ça comme une espèce d'immense aventure. Vous vous rendez compte, pour moi, Berlin, c'était devenu le camp des Tartares. C'est Michel Strogoff. Regarde de tous ses yeux, regarde. Cette fameuse phrase, la tête d'un chapitre de Michel Strogoff, quand on lui brûle les yeux. Et je regardais de tous mes yeux ces types en caftan, couverts de peau de mouton, avec ces bonnes femmes entourées de capoques, de cochonneries, des trucs pour te tenir chaud. Les Allemands, ils faisaient quelques façons en France. Ils mettaient quelques manières pour faire semblant que ce soit légal. En Ukraine, en Russie, ils se cassaient pas tant la tête. Ils renflaient un village entier. Je les ai vus débarquer aussi, ça. J'ai fait connaissance là, au bagne, avec le peuple russe. Oui.
Voilà, parce que le capitalisme allemand profitait bien de cette guerre, mais l'ennui avec la guerre, c'est que les travailleurs étaient au front. Donc on a fait venir, vous avez compris, avec le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, avec la complicité du gouvernement de Vichy, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de jeunes Français au titre de ce travail obligatoire, du service du travail obligatoire. Ils ont été entre 600 000 et 650 000 entre 1942-1944 à prendre ses wagons pour l'Allemagne, pour se retrouver à travailler dans des usines et faire marcher la machine allemande. Mais de l'autre côté, eh bien, il y avait aussi des prisonniers de guerre russes qui travaillaient dans ces camps au titre du STO. Et il y avait du côté français un certain François Cavanna, et de l'autre côté russe, vous connaissez sans doute l'histoire, ce beau livre de François Cavanna, Les Ruskov, une certaine Maria.
Et donc vous arrivez en Allemagne pour le pire et pour le meilleur.
Voilà, je me retrouve dans un camp, comme tous les camps, quoi, des barbelés. On était complètement abrutis, crevés ces 3 jours sans dormir. D'ailleurs. On nous fout dans des cabanes, il y avait des lits superposés. Et bon, voilà, on désigne un lit, tu es là, je pose mon fourmi là. Et à ce moment-là, l'interprète, c'était un Belge, qui me dit, écoute, mon vieux, faut que tu ailles travailler maintenant. De but en blanc, je me suis retrouvé dans une énorme machine, c'est une presse. Sur cette presse, on était 3 à travailler, il y avait le chef de presse qui était censé être le français, et puis il y avait 2 Russes, 2 femmes ukrainiennes. C'était Maria, quoi. Je croyais qu'elle était allemande, je savais pas ce qu'elle était, je m'en foutais. C'est elle qui m'a appris les gestes que je devais faire. Il fallait qu'on marche bien ensemble. Pendant 15 jours, j'ai cru que je parlais allemand alors que je parlais russe. Dans cette nuit de fantasmagorie, dans cette nuit, j'étais absolument crevé où je tenais. Je voyais plus clair, je n'avais plus de bouger, j'avais faim, j'avais sommeil. Cette fille m'est apparue